Bonjour, shalom, assalam alaikum. Mercredi 22 novembre 2023, il sont 11h et le club de la presse vous salue. Vous qui êtes à l'écoute sur Canal FM à Lomé ici, mais également sur les antennes des radios partenaires, Radio Lumière à Anéha, Radio L'Appel, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan. Et oui, nous couvrons tout le Togo et c'est pas fini. Nous sommes également audibles un peu partout, en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Océanie, grâce aux partenaires numériques Radio Les Bénins et Bénin Radio. Vous avez également l'application Canal FM et également la chaîne de télévision numérique YouTube. Et nous, c'est d'abord à la réalisation mise en onde Vitogbe Koku Michel Tobenga et Gérard Kodjo Akucha. Au studio ici, Sylvestre Koku Béni du journal La Manchette. Bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Abbas Issaka de Le Mania Libéré, bonjour.
Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en soir.
Et Abel Ozi de Santé Éducation, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Nous avons également un invité, il vient du corps de la médecine, docteur Bigma Malana Fortuné, bonjour.
Bonjour, et bonjour Sass, et puis bonjour à tous les confrères sur le plateau.
Vous êtes médecin de santé publique, vous officiez au département de santé publique à l'université de Lomé, vous êtes également chargé de recherche au Centre africain de recherche en épidémiologie et santé publique. Vous êtes surtout le chef d'un projet qui porte cartographie des personnes atteintes d'albinisme au Togo 2023, projet lancé hier. Merci pour votre disponibilité de vous porter à nos côtés pour partager des informations utiles sur ce projet. Mais je voudrais, si vous le permettez, saluer deux de vos maîtres et de nos amis. D'abord, le professeur Didier Ekwevi, que nous avions coutume de recevoir dans ce studio au moment de la pandémie à COVID. Mais j'espère que le professeur Didier Ekwevi se porte bien.
Oui, il va bien, monsieur Sass.
Merci. Le second de vos maîtres que je voudrais qu'on salue, c'est le docteur David Ekoudé Iou, qui s'intéresse également aux personnes atteintes d'albinisme. Vous le connaissez aussi bien.
Oui, oui, oui.
Merci, docteur David Ekoudé Iou et professeur Didier Ekwevi. Le club La Presse vous salue et nous sommes dans l'attente de vous accueillir prochainement dans ce studio. Avant d'aller à tous ces sujets, nous allons parler de ce projet portant cartographie des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Naturellement, Santé Éducation qui est paru avec ses articles, l'actualité sociopolitique. Mais Abbas Issaka, je voudrais également qu'on rappelle un fait d'histoire. Il y a exactement 60 ans, c'était le 22 novembre 1963, à Dallas, aux États-Unis, le président John Fitzgerald Kennedy, qui était en visite là-bas, dans sa voiture décapotable, quelqu'un a tiré sur lui. Ça fait 60 ans que le président Kennedy, devenu énigmatique, est mort. Mais même les puissants, je dirais même puissantissimes États-Unis d'Amérique, ne sont jamais arrivés à nous dire les circonstances réelles dans lesquelles le président est mort, notamment celui qui avait tiré sur lui, les commanditaires et les motifs.
Oui, et effectivement, et jusqu'à ce jour, ce crime est resté impuni.
Oui.
Parce que.
Non, quelqu'un avait été arrêté, jugé, mais condamné,
le mystère est là. C'est-à-dire, on l'a arrêté. Est-ce qu'on sait que c'est lui qui a tiré sur la personne? Avec les services de renseignement dont dispose le puissantissime pays des États-Unis,
oui.
On n'a pas su détecter celui-là qui a tiré sur. Le président Kennedy.
Ses commanditaires
et les motifs. Pourquoi tout ça là? Et jusqu'à pendant son temps aujourd'hui, on a arrêté quelqu'un, injustement, certainement. Peut-être qu'il va faire la prison,
il va finir la prison. Jugé, condamné.
Est-ce que, après, il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'est pas lui le coupable après avoir fait 16 années de prison et qu'on dise que, bon, finalement, on a retrouvé les commanditaires. Et l'auteur même de, du crime, oui. Celui-là qui a tiré sur John Kennedy. Donc aujourd'hui, le problème demeure entier et c'est mystérieux que la grande puissance des États-Unis n'ait pas pu déterminer. Ça me ramène à cette histoire de quand on est venu tirer sur, on dit que c'est les États-Unis qui sont la plus grande puissance du monde. Mais le 11 septembre 2001, il y a eu la tour qui a été touchée.
Oui, les tours jumelles.
Les tours jumelles qui ont été touchées. Mais on n'a pas pu nous déterminer exactement comment les choses se sont passées. Mais il y a eu des morts. Et ce qui veut dire que personne ne peut se dire qu'il est puissant. Surtout en matière de sécurité.
Il y a des mystères. Pour revenir à Kennedy, ce matin j'écoutais RFI qui évoquait des pistes les plus insolites possibles. Certaines pistes se dirigent vers la CIA, le service d'espionnage américain. D'autres pistes qui tendent vers les milieux politiques, les milieux financiers. Même les extraterrestres ont été mis en cause pour dire que 60 ans après, une bonne partie du mystère demeure autour des circonstances de l'auteur, des commanditaires et des mobiles de ce crime. Sylvestre Béni?
Oui, si nous parlons donc de Kennedy, ça nous rappelle également Sylvanus Olympio, parce que c'est deux présidents presque au même destin. Sylvanus Olympio qui a rendu visite à John Kennedy il y a quelques mois.
C'était vers la fin 62.
Vers la fin 62. Et en janvier 63, il a été assassiné. Et jusqu'à aujourd'hui, nul ne le sait, celui qui a tiré sur lui. C'est vrai qu'entre-temps, le général Yassine Gouyadema s'est vanté l'avoir tué, mais en 92, il s'est dédié, disant que dans l'hierarchie, il y avait d'autres personnes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qui a tiré sur lui, les commanditaires, tout ça, c'est vrai, on donne la France et tout ça, la merde. Et vous prenez également Kennedy, c'est presque le même destin, le même sort. Donc, deux présidents ont le même destin. Voilà quoi, c'est
merci.
C'est
deuxième sujet, j'ai appris, nous avons tous appris également par les médias que, vous savez, dans cette guerre entre Israël et le mouvement Hamas, il y a eu encore des attaques israéliennes sur la bande de Gaza hier. Et nous avons appris que deux confrères journalistes ont été tués dans cette affaire. Pour dire que nous les journalistes, beaucoup nous aiment, mais beaucoup nous aiment encore moins. Et nous sommes sur tous les fronts. Il nous arrive de perdre même notre vie. Il nous arrive également de perdre notre liberté au point de se retrouver en exil, bien malgré nous, comme Ferdinand a été, comme Isidore Kouanou, pour ce qui concerne du Togo. Il y en a encore plein dans le monde. Il nous arrive également de perdre notre liberté pendant un moment. C'est ce qui arrive depuis 10 jours à Loïc Lawson et à Nani Soussou dans cette affaire de vol d'une certaine somme d'argent au domicile d'un ministre qui a porté plainte. Les confrères ont été auditionnés à la police, inculpés par le procureur de la République. Le juge d'instruction a décerné contre eux un mandat de dépôt. Ils sont en prison. C'est le sujet qui défrait la chronique. Et aujourd'hui encore, la manchette les rappelle à notre souvenir. Détention de Loïc et Innocent. Le PPT inquiet. Le PPT, c'est le patronat de la presse togolaise, l'une des organisations patronales de la presse togolaise. Il y a quelques jours, il y a également le GIT qui a sorti un communiqué qui vient s'ajouter au communiqué de l'UPF Togo, de l'UPF International et également du comité pour la protection des journalistes pour dire, Sylvestre Béni, que Loïc est innocent, non pas innocent, Loïc Lawson et Anani Soussou
innocent,
sont toujours en prison.
Innocent Anani Soussou. Il est comme toi.
Non, vous savez que le seul innocent, c'est moi. Oui.
Ah, yo.
Ok. Donc, bon, Loïc et Anani sont toujours en prison. Oui. La polémique semble toujours. Condamnation par-ci, par-là. Nous apprenons que des tractations se mènent dans les couloirs. Mais nos confrères sont toujours en prison. Sylvestre Béni.
Oui, c'est ça. C'est ça, véritablement, ce qui attriste le plus parce que. 10 jours, même une seule journée en prison, tu ne pouvais jamais le souhaiter avoir de pire ennemi. 10 jours que nos confrères sont là, ils ne sont que journalistes. Nous avons l'habitude de le dire, le journaliste n'est pas un crime, ils ne sont pas des criminels. Mais vous allez aujourd'hui à la prison de civile de Lomé, c'est toute une catégorie de personnes, y compris des braqueurs, des bandits de grand chemin, des criminels et tout qui y sont. Et malheureusement, c'est des journalistes qui sont au milieu de ces personnes-là. Lorsque on se rappelle, on se souvient, ça triste tel que je le dis. Le PPT est inquiet, le patronat de la presse togolaise, puisque à cette allure-là, puisqu'il y a beaucoup donc de couloirs, comme vous le dites si bien, mais le bout du tunnel est encore loin. Nous n'arrivons pas donc à voir le bout du tunnel. On estime qu'il est temps que le ministre puisse véritablement écouter le cri donc de toutes ces organisations de presse, de la société civile et autres, qui demandent à ce que ces confrères là puissent être libérés. Même si on veut continuer la procédure, il faudrait quand même qu'ils soient dehors, en attendant que on puisse tout continuer. Donc c'est l'occasion encore d'inviter donc le ministre à écouter donc tout ce qui se dit depuis 10 jours. Je crois qu'il a un cœur et puis il faudrait quand même qu'il puisse écouter ce cœur-là pour libérer nos confrères.
Nous apprenons par indiscrétion qu'une organisation internationale de presse serait arrivée ici à Lomé dans cette affaire.
Oui.
Et nous gardons l'espoir que cette affaire va se régler au mieux. Oui, Abbas.
C'est le premier responsable de l'UPF.
Ah, l'UPF international, ça, qui est arrivé au Togo.
Dans nos murs pour une mission de médiation. On espère que ça puisse au moins donner quelque chose, parce que ce n'est pas bon.
Non, tu sais que le Togolais a la foi et nous sommes champions en optimisme.
On est champions en optimisme. Merci beaucoup. On doit garder cette
foi. D'ici là, beaucoup de courage à Loïc et à Nani depuis la prison. C'est une épreuve inhérente à notre profession. Ils vont s'en sortir. Et puis, je sais que vous êtes très nombreux à co-animer avec nous. Vous partagez avec, pas seulement moi et les confrères au studio, beaucoup de messages. Seulement, moi, j'ai eu un accident technologique ce matin, donc je ne suis pas sur WhatsApp. C'est pour dire à vos amis, vous qui co-animez avec nous par vos messages, écrivez-moi en SMS. Parce que si vous m'envoyez des messages en WhatsApp, je suis devenu aveugle et muet, aveugle et sourd sur WhatsApp. Mais si vous m'écrivez par SMS, vous pourrez nous continuer à co-animer directement avec nous. Abel aussi, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs.
Eh bien, quand on prend Santé Éducation Paris aujourd'hui à la manchette, c'est ce bel article avec une belle photo, la marche pour guérir et vivre longtemps. Ah, je rappelle que samedi prochain, ce sera le dernier samedi du mois de novembre. Il y aura encore la journée nationale des sports au Togo, n'est-ce pas Abel?
Oui, comme le gouvernement l'a décrété, donc on s'en tient à ça. Et chacun doit s'en tenir à ça pour encore améliorer sa santé. C'est vraiment important.
Merci. Merci donc. Abbas, je crois que Le Magnan Libéré a fait un article sur la Société nationale de sport.
Oui, mais après, avant ça, on a rappelé les 45 jours qui sont terminés pour l'enquête.
On va y venir. On va y venir, mais pour le moment, restons dans la dynamique du sport. Donc, samedi prochain, ce sera le samedi 25 novembre, dernier samedi du mois de novembre, c'est la journée nationale du sport. Je sais que beaucoup iront faire du sport, notamment des gens comme moi, iront marcher. Et en prévision de cela, Santé Éducation nous rappelle les avantages à marcher.
Exactement. Il faut qu'on renoue avec cette activité physique. Pourquoi en réalité on doit marcher? Vous savez, Hippocrate a dit la marche est le meilleur remède pour l'homme. C'est-à-dire que on croit que c'est une activité banale, mais à part le plaisir que la marche donne, la marche a d'importantes vertus sur l'organisme et sur la santé. Mmh. Et cet article a beaucoup relevé par des études prouvées scientifiques, l'importance de la marche, l'importance de marcher. Mmh. La marche est bonne pour le cœur, pour les vaisseaux sanguins, pour notre système nerveux, et elle solidifie nos os, elle nous permet d'abaisser notre glycémie. Donc, la marche a des vertus, bien a des pouvoirs curatifs et préventifs et thérapeutiques sur la santé. Donc, c'est un article qui encourage chaque citoyen à comprendre que c'est vraiment important de marcher. Et nous voulons aussi encourager nos médecins à prescrire, en fait, la marche Si ordonnance.
Eh bien, docteur Bigman nous en dira ce qu'il en pense dans un moment. Mais pour revenir à l'article de santé éducation, marcher pour être en bonne santé, parce que la marche fait perdre la graisse corporelle. Quand on marche, on augmente la libération de la sérotonine. Quand on marche, on favorise la synthèse de la vitamine D. On réduit la tension artérielle. On maintient le taux de glycémie à un niveau stable. On améliore la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. On diminue le cholestérol et les triglycérides sanguins. On améliore l'endurance à l'activité physique. Vous dites, tout n'est que bénéf en marchant. Docteur Bigman, oui. Voilà Santé Éducation qui, pas vous ordonne, hein, mais vous exhorte plutôt à prescrire la marche à certains de vos malades.
Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore courant dans nos pratiques, je vais dire dans nos pays, mais ailleurs ça se fait déjà, c'est de prescrire des activités physiques aux patients, parce que ça contribue énormément à l'amélioration de la santé. Et nous, en santé publique, ça fait partie de l'un des premiers volets que nous donnons comme motivation ou comme incitation aux gens et à la population pour contribuer énormément à la réduction des pathologies qui sont dites non transmissibles. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que lors de la semaine de la santé, nous avons conduit une étude sur les pathologies non transmissibles, notamment l'hypertension artérielle et puis l'obésité abdominale au cours de ces activités. Nous avons donc eu à prendre les constantes des gens et puis nous avons mesuré ce qu'on appelle le tour de taille, c'est-à-dire le tour de l'abdomen en fait, pour voir s'il y a des gens qui présentent des risques d'obésité. Et justement, pour ces personnes qui étaient à risque ou pour lesquelles on a détecté cette pathologie, c'était des gens qui n'avaient presque pas d'activité physique. La personne sort et puis elle est soit dans un bureau, soit au marché où la personne vend quelque chose, c'est juste l'après-midi ou la soirée, il faut rentrer. Donc c'est tellement insuffisant pour l'organisme et c'est le lieu ici d'appeler la population, sinon tout le monde, à pratiquer le sport.
Ça c'est parole de Dr Bigman Malana Fortuné qui est médecin de santé publique. Et la marche encore est vivement recommandée pour prévenir des maladies non transmissibles comme le diabète. Le diabète qui tient la page de la polémique ces derniers jours. Selon les informations, avec même des interventions des auditeurs, il semblerait qu'une autorité traditionnelle aurait trouvé un médicament pour guérir le diabète. La question circule et remontée jusqu'aux oreilles du professeur Mustapha Mijiawa, ministre de la Santé publique et de l'hygiène publique, qui a sorti un communiqué il y a quelques heures. Eh bien, Abel Ozi, veux-tu nous rappeler quelques lignes de ce communiqué sorti par le ministre Mijiawa à propos de ce supposé médicament traditionnel contre le diabète?
Oui, quand nous lisons le communiqué du professeur Mijiawa, on peut comprendre que le ministre a été clair en disant que le diabète ne se guérit pas par la médecine traditionnelle.
Non, il n'a pas dit ça, mais bon, il a dit que le médicament dont il est question n'est ni validé, ni homologué, ni autorisé.
Voilà. Mm-hmm. Ni autorisé par les instances publiques, tout ça là.
Oui, que c'est un traitement
à vie. Il dit que le diabète, en fait, le diabète, c'est un traitement à vie. Mais, de façon, quand nous prenons, en fait, l'autorité traditionnelle qui a mis en place ce médicament pour le traitement du diabète, on peut comprendre dans ce communiqué du professeur Mijiawa que, en réalité, la médecine traditionnelle ne peut pas, entre guillemets, guérir le diabète.
Mm-hmm. En fait. Du moins, c'est pour le moment.
Pour le moment, en fait. Donc, nous, en fait, la question a été posée dans cette certification lors de nos patients spéciales, diabète. À la une, on a mis guérir le diabète possible. Est-ce que c'est possible? En fait, c'est la question qu'on s'est posée également. Donc, on est allé vers les spécialistes pour leur poser la question si réellement le diabète se guérit. Parce qu'on parle de guérison. Donc, et au vu des réponses, on a compris que, en réalité, traitement, comme le professeur Mijiawa l'a dit, c'est un traitement à vie. Mm-hmm. Quand on peut inverser la tendance, on peut réduire et avec une relation équilibrée, saine, variée, avec le sport, avec un mode de vie sain, donc on peut inverser la tendance, on peut réduire...
En somme, le ministre de la Santé, professeur Mustapha Mijiawa, dit que le médicament dont il est question n'est pas validé, n'est pas homologué sur le territoire togolais. Il va jusqu'à mettre en garde aussi bien le détenteur de ce médicament que les personnes enclines à s'y intéresser. Nous avons la chance d'avoir un médecin en santé publique au plateau, docteur Bigman. Vous avez sûrement connaissance de ce communiqué du ministre Mijiawa et de la polémique autour du soi-disant médicament contre le diabète.
Oui, monsieur Sass, je vais dire que c'est un grand problème parce que ce prétendu médicament risque d'aggraver en fait la situation de plusieurs patients qui vont se nourrir d'un espoir de guérison du jour au lendemain. Or, de façon physiologique ou physiopathologique, c'est pas possible, je peux le dire ainsi. Donc, c'est le lieu ici de rappeler aux gens que le diabète, lorsqu'il est déclaré chez une personne, on ne peut que le contrôler en fait. Donc, ça fait partie des pathologies qu'il faut suivre et contrôler pour s'assurer que la personne a une vie saine en fait. Mm-hmm. Donc, pour parler de guérison, c'est compliqué. C'est compliqué, sinon difficile. Je ne veux pas dire impossible, mais on se donne les espoirs.
Selon, l'évolution de la science,
voilà,
ce 22 novembre 2023.
C'est ça.
Et encore, dans le communiqué, le ministre revient sur les attitudes dans le sens de la prévention,
oui,
notamment faire du sport,
voilà,
éviter la sédentarité,
voilà,
éviter l'obésité, manger sain,
voilà,
et ainsi de suite.
Oui.
Mais dites-nous, Abel Ozi, quelle relation, enfin, quelqu'un qui souffre de diabète, est-ce qu'il peut consommer le miel? Puisque c'est l'un de vos articles, miel et diabète.
Exactement, la question aussi a été posée à un spécialiste. On se dit, le sucre, un diabétique ne doit pas prendre du sucre, tout ça là. Mais est-ce que le miel qui contient du sucre, est-ce qu'un diabétique peut consommer du miel?
Mm-hmm.
Il nous a dit oui. Oui, un diabétique peut consommer du sel. Et du miel, s'il vous plaît. Donc, le miel n'est pas interdit au diabétique. Parce que le miel, en fait, c'est un aliment qui a des antioxydants, c'est un excellent produit qui peut agir, en fait, sur le traitement du diabète. Donc, dans le miel, on a des sucres que le diabétique peut consommer naturellement.
Mm-hmm.
Mais, quand vous lisez l'article, il y a des recommandations précises que donnent les spécialistes par rapport, en fait, à la consommation et par rapport au miel même. Parce que sur le marché, on a
différents types de miel.
Est-ce qu'on voit? Donc, l'article a été très bien écrit avec les recommandations précises du spécialiste qui donne en fait cette analyse par rapport au miel qu'on a sur le marché. Est-ce qu'on voit? Donc, nous recommandons en fait aux patients diabétiques de lire l'article et de voir en réalité et quelles sont les recommandations possibles, mais quel genre de critères. Je peux dire quels sont les critères sur lesquels on doit se baser pour avoir un bon miel et le consommer quand on est diabétique.
Voilà,
en fait.
Même dans la Bible, il y a la bonne graine, mais il y a également l'ivraie.
Ouais.
Il faut arriver à bien reconnaître le miel,
le vrai miel de
bonne qualité.
Voilà.
Et avec l'article, les personnes souffrant de diabète auront des informations, des notions sur comment. Et on peut consommer le miel tout en souffrant de diabète. Docteur Bigman?
Oui, je vais dire, le plus souvent, le problème chez nous, c'est l'information et comment on donne l'information aux gens.
Mm-hmm.
Quand on dit tout de suite que le diabétique ne doit pas consommer du sucre, ça fait un peu problème. Parce qu'un diabétique qui est suivi, qui est sous traitement, la première des choses qu'il doit avoir sur lui, même quand il se déplace, c'est le sucre.
Mm-hmm.
C'est pas, parce que c'est des gens qui prennent des produits pour réduire le taux de sucre dans l'organisme. Je vais dire ça comme ça pour que les gens comprennent. Donc, ils prennent des produits hypoglycémiens, donc qui réduisent le taux de glycémie. Donc, ça fait que ces personnes sont plus à risque de faire des crises d'hypoglycémie. Soit parce qu'il a pris son produit, mais il n'a pas mangé suffisamment pour compenser. C'est vraiment difficile de faire l'équilibre. Donc, il peut à tout moment être en dessous des valeurs normales et que son organisme peut en pâtir.
Mm-hmm.
Donc, la première des choses que le diabétique doit avoir sur lui, c'est le sucre. C'est pas pour dire qu'il doit le consommer à tout moment. Donc, il doit avoir ça sur lui de façon à pouvoir l'utiliser quand il en a besoin pour se sauver. Donc, c'est juste pour un rappel. et voilà le miel. Si la personne aussi peut avoir le miel sur lui, je pense que c'est beaucoup plus avantageux parce qu'il va prendre ça, ça va lui apporter ce, cet équilibre et puis et avec les autres vertus du miel, ça va vraiment aider son
organisme. Merci docteur Bigman. Mais je reviens à Santé Éducation qui attire notre attention sur une maladie pas moins chronique, c'est les reins. Comment entretenir la santé de ses reins? Alors, Santé Éducation nous recommande d'éviter de certaines mauvaises habitudes parce que le rein, faut-il le rappeler, sont des organes vitaux, essentiels. C'est eux qui sont responsables de filtrer les déchets et l'excès de liquide qui sont éliminés à travers les urines. Mais nos, certaines de nos habitudes peuvent mettre en danger, voire même détruire les reins. Alors, c'est comme Abel Ozi, vous les écrivez, éviter l'excès de sel.
Exactement.
Éviter les excès de caféine.
Oui, oui.
Se retenir. Il y a certaines personnes qui se retiennent d'uriner. Mm. D'autres encore qui s'adonnent bien volontiers ou bien trop volontiers aux boissons sucrées et aux boissons gazeuses. Éviter les accès, les alcools en excès. Et puis, éviter également les aliments riches, trop riches en protéines.
Exact. Exactement ça. Tout le monde a peur de l'insuffisance rénale aujourd'hui et il faut que chaque citoyen s'asseye dans la prévention. C'est ça en réalité, parce que quand on est atteint de cette maladie, on l'a déjà dit ici, c'est le pire quoi.
À ce niveau-là, ben, tu permets, j'ai oui. une information qui me donne le frisson à chaque fois.
Oui.
Dans au club de la presse, j'ai découvert l'association des personnes dialysées. Oui. Et chaque 6 mois, c'est un nouveau président que je trouve. Ça dit chaque 6 mois, cette association perd son président. Et avec d'autres membres, c'est dire que je ne veux faire du faire peur à personne, mais c'est une maladie vraiment terrible.
Exactement.
Même si on peut faire l'hémodialyse, il est encore mieux d'éviter autant que possible l'insuffisance rénale.
Oui, il faut éviter cette maladie. C'est pourquoi il faut la prévention. Donc, avec tous ces comportements que nous adoptons, toutes ces erreurs que nous commettons au quotidien, et ça peut nous amener là-bas. Donc, il faut éviter les boissons gazeuses, alcooliser l'excès de ces boissons et manger des repas trop copieux en graisse animale. Donc, en matière d'alimentation, manger moins sucré, manger moins gras.
Manger
moins salé.
Et surtout faire toujours du sport. Même si on a la dernière version de Maybach Mercedes, même si on a la dernière version de la Cadillac, ou bien de je ne sais pas quel véhicule, de temps en temps, laisser le véhicule au garage, marcher un peu. On peut même si on travaille au 36e hôtel de l'hôtel de février, que les ascenseurs sont tout nouveaux, de temps en temps, gravir quelques étages, quelques escaliers. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas, docteur Bigman?
Oui, justement, c'est bon pour la santé, le sport, et ça va contribuer aussi à la fonction rénale. Et comme il a dit, le rein, c'est à protéger. Parce que quand le rein tombe en défaillance, c'est compliqué pour l'organisme. C'est le filtre, en fait, de l'organisme. C'est lui qui se charge de vider tout ce qui n'est pas bon. Et quand il est en difficulté, quand vous lui envoyez des éléments compliqués à décharger de l'organisme, ça fatigue le rein et ça conduit rapidement à une insuffisance rénale.
Merci. Venons-en maintenant à l'objet même de votre passage dans ce studio. Il s'agit de ce projet qui a été lancé hier qui porte cartographie des personnes atteintes d'albinisme au Togo 2023. En quoi consiste ce projet, docteur Bigman?
Merci beaucoup, Sass. Le projet cartographie des personnes atteintes d'albinisme au Togo en 2023, il s'agit en fait de se dire à un moment au Togo, on a combien de personnes qui sont atteintes d'albinisme. Avec le recensement général de la population togolaise, il a été difficile qu'on puisse nous dire c'est combien de personnes qui sont atteintes d'albinisme nous avons au Togo. Parce que en fait, cette population constitue une population vulnérable et il faut savoir ils sont combien, ils sont où, qu'est-ce qu'ils font et afin de pouvoir donc orienter donc les actions de santé, de promotion de santé en leur faveur. Donc, l'objet ou bien l'objectif de ce projet, c'est à la fin de pouvoir dire exactement au Togo, nous avons combien de personnes. Peut-être que nous ne serons pas aussi exacts que ça, mais le prix approximatif cible, donc dire exactement on a combien de personnes atteintes d'albinisme, ils sont où, est-ce qu'il y a des zones de forte densité de personnes atteintes d'albinisme, donc de façon à pouvoir donc orienter les actions donc vers ces personnes et sortir, leur sortir de ce discrédit, du mythe qui les entoure, de sensibiliser donc les personnes ou bien la population autour d'eux. C'est des personnes qui sont normales comme nous, sauf qu'elles ont eu la chance d'avoir un déficit au niveau d'un gène, donc qui cause la pigmentation donc de la peau et des yeux et des cheveux. Donc les sortir de leur cachette et les aider à...
Est-ce que le projet couvre tout le territoire du Togo?
Le projet va couvrir tout l'étendue du territoire togolais et va permettre de réaliser, comme je le disais, la cartographie, de nous dire exactement ils sont combien, ils sont où au Togo.
Vous irez partout au Togo et vous toucherez tous ou la très grande majorité des personnes atteintes d'albinisme.
Nous irons partout justement parce que nous allons en fait nous appuyer sur les communautés. Donc nous allons passer par ce que nous, les agents que nous appelons les agents de santé communautaire, qui sont en fait en communauté, qui maîtrisent bien leur communauté et leur zone de travail, qui vont nous dire exactement est-ce que chacun dans sa zone, est-ce qu'il y a une personne ou des personnes atteintes d'albinisme, et à partir de là, on va maintenant réaliser ce qu'on appelle une cartographie pour pouvoir avoir des données plus précises.
Alors vous parliez tantôt de préjugés, voire même de mythes qui entourent ces personnes.
Oui. Vous savez, pas seulement au Togo, dans plusieurs pays en Afrique, c'est des personnes qui sont considérées comme n'étant pas soit normales, soit au contraire ayant des pouvoirs mystiques. Donc ailleurs, les gens disent que leurs cheveux peuvent guérir des maladies, peut-être comme le diabète, le sida et ainsi de suite. Donc ils sont attaqués de part et d'autre. Dans d'autres contrées, ils sont dit non, que c'est des personnes qui ne doivent pas exercer certaines fonctions. Quand il y a certains travaux dans le village, on les met de côté et tout ça. Donc ça crée des frustrations, ça ne permet pas l'épanouissement donc, de ces personnes. Donc tout ça, nous allons permettre, après avoir fait ce travail, sensibiliser donc les populations pour qu'on comprenne en fait que c'est des personnes aussi normales comme nous et qui ont aussi tous les droits comme nous.
Des personnes normales comme nous, ils ont tous les droits, mais ils sont exposés à certaines situations difficiles, pour ne pas dire ils sont fragiles sur certains aspects de la vie. C'est pour dire à quoi vont servir concrètement les données que vous aurez récoltées lors de votre cartographie.
Ok, quand je prends par exemple un exemple. Quand je prends par exemple le fait que les personnes atteintes d'albinisme sont plus exposées ou sont plus fragiles aux rayons ultraviolets, c'est-à-dire qu'ils sont facilement, ils vont développer les cancers de la peau. Donc, à la fin de ce travail, quand nous aurons des données précises, c'est-à-dire de savoir combien et où sont ces personnes, c'est d'aller vers ces personnes, de faire ce qu'on appelle des sensibilisations foraines et puis de faire des actions, de leur donner ce qu'on appelle des éléments de protection qui vont les aider à se protéger donc, contre les effets nuisibles des rayons ultraviolets. Donc, on va leur donner les crèmes et écrans solaires. On va leur sensibiliser d'abord sur le fait qu'il y a des associations des personnes atteintes d'albinisme auxquelles ces personnes doivent adhérer pour pouvoir bénéficier donc, des services qui sont offerts. Et puis, voilà, faire donc, des plaidoyers au niveau donc, de nos autorités pour qu'on puisse donc, mener des actions en leur faveur. Quand on va dans une école et qu'il y a un élève ou une personne qui est atteinte d'albinisme, il faut que l'enseignant, il faut que le directeur de l'établissement sache qu'il y a une personne atteinte d'albinisme dans telle classe et que cette personne ne doit pas avoir les mêmes conditions que les autres élèves. Peut-être que cet élève, lui, il doit être à un mètre du tableau pour pouvoir voir. Mm-hmm. Donc, il faut que l'enseignant, il faut que le directeur sache et pour comprendre les dispositions pour cet élève-là et qu'on le mette aussi dans les conditions pour lui donner la
alors, est-ce que ces prestations sociales, notamment ces offres, dont les dispositions se prises pour que cela aille au bénéfice des personnes atteintes d'albinisme dans le Togo profond, dans les villages, dans les hameaux les plus reculés?
Et je vais dire oui, parce que nous travaillons justement en collaboration avec le ministère de la Santé à travers la division de la santé communautaire. Nous travaillons aussi en collaboration avec la SOTODERM, la Société Togolaise de Dermatologie. Nous travaillons aussi avec l'ANAT, qui est l'Association Nationale des Albinos du Togo. Donc, à travers tous ces partenaires, nous pensons vraiment pouvoir toucher les coins les plus reculés possibles et donc mener des actions qui vont vraiment contribuer à l'épanouissement donc des personnes atteintes d'albinisme au Togo.
Et le projet lancé hier court jusqu'à quelle date?
Nous avons fait le lancement hier et nous allons travailler tout le mois de décembre et de janvier et nous pensons clôturer ce projet en février 2024.
Et vous passerez ici chez nous partager les résultats de l'étude?
Justement, les résultats seront divulgués et puis nous viendrons, mais pas seulement à la fin, en cours de projet, nous serons là avec vous pour pouvoir passer l'information donc à la population, que les gens sachent que voilà, il y a quelque chose qui est en cours, que les gens ne soient pas étonnés quand les agents enquêteurs vont passer dans les domiciles.
Et surtout, informer les personnes elles-mêmes atteintes d'albinisme, surtout leurs parents et leurs proches, d'autoriser que vos enquêteurs puissent avoir accès à ces personnes. Et
justement, Monsieur Sass.
Donc, je vous en prie, Docteur Bigma Malana Fortuné, sur le coup de 12 heures, les auditeurs qui le souhaitent pourraient toujours intervenir dans leurs questions-réponses, dans leurs questions ou bien dans leurs commentaires. Pourquoi pas sur cette étude. Pendant ce temps, nous continuons avec un sujet dont nous avons débattu hier au studio aussi avec beaucoup d'optimisme. Et quand nous avons ouvert les antennes à midi, les auditeurs avaient promis que les éperviers allaient gagner les Lions du Sénégal par 2-0. En tout cas, malheureusement, j'ai pas pu aller au stade, mais qui, ici au studio, était au stade hier ou bien pu suivre le match d'une façon ou d'une autre. Abel aussi?
Oui, j'ai suivi le match.
Eh bien, le score?
0-0.
Donc, le Togo n'a pas battu le Sénégal hier, mais le Togo n'a pas été battu.
C'est ça.
C'est ça.
Ça nous fait 2 matchs nuls en 2 matchs dans ce marathon des éliminatoires qui va nous conduire à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique. Eh bien, nous n'avons pas gagné, mais on a perdu. Mais tu peux nous dire, Abel, en quelques lignes sur ce match que tu as regardé hier?
Bon, en fait, notre pays n'a pas démérité. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'occasions ratées.
Encore une fois, nos attaquants qui ne sont pas tueurs devant les buts adverses.
Donc, on a manqué de réalisme dans les derniers mouvements, bien dans les dernières...
La finition, dans la soirée de vérité.
Donc, si vraiment ils avaient concrétisé, on pourrait battre le Sénégal peut-être par 2-3.
Oui,
même à la fin, il y avait une occasion qui a été ratée vers la fin du match.
Nous avons toujours un problème de finition devant les buts.
Voilà.
Malheureusement, nous n'avons pas dans nos rangs des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi, ou bien des Robert Lewandowski, ou bien des Erling Haaland.
Pour l'anecdote, la petite anecdote. Il y a un Togolais qui disait hier si le vieux Baudet n'a pas été payé. Parce que. Il y a tellement donc d'occasions où on aurait pu mettre le ballon au fond du filet, mais on n'arrive pas. On a tellement eu d'occasions, même hier, on pouvait battre le Sénégal par 4-0, qu'on ne crierait pas au scandale. Mais bon, ça ne rentre toujours pas.
J'ai suivi le match de bout en haut parce que j'allais au stade et. C'était impossible même de continuer parce que le public sportif s'était mobilisé. C'était mobilisé pour aller au stade. Il y a des gens qui ont pris leur ticket et qui n'ont pas pu avoir accès même au stade parce que c'était déjà plein. Et ça a donné maintenant, ça a galvanisé même les joueurs sur le terrain. Et quand vous les voyez, et même ils ont dit que le 12e homme, c'est sur eux qu'ils comptent.
Oui, David Denner appelait le public.
Et puis hier, c'était un match des gladiateurs.
Oui. A dit.
Souvent, Togo-Sénégal, Sénégal-Togo, c'est des matchs serrés.
Souvent très, très, très serrés.
C'est des matchs trop serrés. Donc, hier, les joueurs se sont donnés. Sylvestre l'a dit tout à l'heure. On pouvait battre le Sénégal par 5-0 qu'on ne crierait pas au scandale.
Si nous avions des Abdelkader, Koubadia...
Parce qu'ils ont essayé. Ce n'est pas la faute de ne pas avoir essayé.
Oui.
Ils ont essayé. Et Sadio Mané a fait ce qu'il pouvait aussi.
Pour son pays.
Mais seulement, c'est que l'organisation de l'équipe togolaise était faite de telle sorte que ça empêchait le Sénégal de développer.
Les stars du Sénégal.
Au milieu du terrain qui était serré. Parce que la tactique adoptée par Paulo Draté, 3-5-2, c'est le milieu étoffé. Et ça empêchait surtout le petit Derman Karim, qui le numéro 17, qui a tourné, même le coach sénégalais Alou Cissé l'a reconnu que c'est lui qui a fait le jeu.
Donc, en somme, le football est en train de.
En tout cas, on est en train
de renaître.
Mais n'allons pas trop vite en besogne. C'est quand même un constat. Que le Sénégal a été contraint au match nul chez nous ici au Togo, ce n'était pas évident.
Le champion d'Afrique, si vous voulez.
Champion d'Afrique,
oui. Avec ses vedettes.
Avec celui qui a le ballon d'or africain,
oui.
Sadio Mané.
C'est là des enfants qu'on possède en moins de ce début de dynamique, de dynamisme et de dynamique continue entre l'équipe et surtout le public. Et que Paolo Duarte tire les enseignements judicieux de ces derniers matchs et qu'il travaille davantage la finition devant les filets adverses.
Je pense que c'est pour cela que Koubaya Kader est là comme coach adjoint des éperviers du Togo.
Oui.
Donc lui-même il a déclaré que c'est par rapport à ces gens de finition que lui est là, puisque c'est un buteur.
Eh bien, nous le souhaitons.
Donc, on souhaite que Kader apporte sa prime sur nos buteurs pour qu'au moins pour la finition on
merci à vous. Il nous reste une vingtaine de minutes. Nous allons parcourir rapidement quelques-uns de vos articles. Qu'on se parle le Mania Libéré qui nous rappelle qu'il y a c'était le 6 octobre que l'Assemblée nationale a mis sur pied la commission de 27 députés qui devraient regarder dans le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid 2020. Et il semble que les 45 jours ont expiré.
Oui, les 45 jours ont expiré.
Depuis quand?
Depuis ce matin.
Depuis aujourd'hui.
Depuis aujourd'hui. Et nous avons tenu à rappeler ça pour que, au moins, ce rapport-là ne soit pas casé dans les placards. Parce que c'est comme ça, ça se
passe. Avant d'aller, est-ce que la commission a pu faire son travail?
Nous avons posé ces gens de questions. On a cherché à savoir, on n'a pas eu de réponse exacte.
Oui.
Donc on s'est dit, est-ce que la commission, elle a pu terminer les 45 jours à auditer l'ensemble de ceux-là qui sont impliqués dans la gestion du fonds Covid, ou bien elle veut se donner encore un temps de prolongation. Là, on pouvait citer l'opinion par rapport à ce travail.
Les 45 jours
sont écoulés.
Donnés à la commission expirent aujourd'hui.
Oui.
Mais comme depuis le 6 octobre, l'Assemblée n'a fait aucune communication sur le fonctionnement, sur les travaux de la commission.
Même la commission parlementaire, la commission installée.
Oui. Donc nous rappelons, comme le Mania Libéré, nous rappelons que les 45 jours finissent aujourd'hui et que l'Assemblée a l'obligation
de communiquer.
L'Assemblée elle-même ou bien la commission,
l'une
ou l'autre ont l'obligation de rendre compte à l'opinion publique de ce que la commission a pu faire.
C'est ça.
Les résultats auxquels elle aura abouti. Ce n'est qu'un devoir de reddition de comptes.
Voilà.
C'est ça. Abbas,
c'est normal puisque ça a été annoncé officiellement qu'il y a une commission parlementaire qui a été installée pour enquêter sur les fonds Covid. Donc, je crois que...
Sur la gestion
2020, parce que 2021, on ne sait pas ce qu'il en est, puisque peut-être que ce sera encore notre truc, on ne sait pas. Maintenant, sur 2020, il faudrait véritablement que l'Assemblée, qui a annoncé cela, que ce soit la même Assemblée qui nous dise si effectivement la Commission a travaillé, si cette Assemblée a eu le rapport, ou comment. Nous, les médias sont là, ils peuvent nous appeler à tout moment, même si c'est à minuit, bon, pour nous dire ce qu'ils ont pu... S'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont découvert et tout cela. Donc,
nous sommes tout huit. Les 45 jours finissent aujourd'hui.
Ouais.
L'Assemblée ni la Commission ne se sont pas donné la peine de nous informer sur l'évolution du travail de la Commission. Nos tentatives ici et là pour nous informer n'ont pas été fructueuses. Mais le délai est épuisé. Maintenant, il va falloir que la Commission elle-même ou la présidente de l'Assemblée, Mme Tchégan, nous rende compte. Et la même reddition de compte que nous déplorons souvent de la part de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Depuis le recensement électoral, la Commission, la CENI n'existait plus. D'aucuns même se demandaient s'ils étaient encore là, jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, ils nous rappellent que la CENI est encore là, qu'elle a demandé l'expertise de l'OIF qui est venu auditer notre fichier électoral. Et depuis hier, La CENI, j'ai écouté même ce matin sur Radio Le Maine, le communiqué officiel de la CENI, qui nous situe sur quelques données de ce fichier électoral validé par l'OIF. Sauf que, autant nous les journalistes avons été surpris par cette mission de l'OIF, autant les partis politiques ou groupes de partis, notamment l'ANC et la DNP, ces deux instances politiques ont également dit avoir été surprises qu'une telle mission a pu avoir lieu dans notre pays. Et aujourd'hui, Sylvestre Béni revient sur le sujet. Sylvestre Béni.
Oui, je crois que le premier élément que tu as évoqué est important parce que ni les médias, personne ne savait que l'OIF est dans nos murs. Personne n'avait quand même l'information qu'ils sont arrivés et qu'ils travaillaient même sur le fichier. Et c'est à la fin qu'on a appelé donc les confrères pour une conférence de presse et voilà patata. L'OIF, une délégation qui est là, qui dit donc avoir travaillé sur le fichier électoral et que le fichier est suffisamment fiable. Je dis suffisamment fiable parce que je vais revenir sur les deux termes là. Maintenant, et au niveau donc des politiques, c'est normal. Il y a Madame Adjamagbo donc de la DMP disait que c'est une grosse présenterie donc de l'UIF et que eux aussi n'étaient même pas au courant que l'UIF est arrivé et qu'ils n'ont jamais su que l'UIF aussi travaille dans clandestinité qu'elle a été surprise et tout naturellement vu la manière dont le recensement a été fait, même le gouvernement a connu qu'il y a il y a eu des dysfonctionnements. Tout le monde l'a constaté avec les encres, tout ça, les cartes qui n'étaient pas là, les groupes qui peinaient à démarrer et tout. Maintenant, à la fin, on nous dit que c'est bon. Maintenant, il y a aussi l'ANC qui a également communiqué là-dessus et qui disait que soit le fichier est bon ou le fichier n'est pas bon. On peut pas parler donc de suffisamment bon ou suffisamment fiable et tout. Soit c'est bon ou c'est pas bon. Et puis de l'autre côté aussi, il y a l'ANC qui piquait un peu le gouvernement en disant que c'est le même gouvernement qui est allé donc à la tribune des Nations Unies en disant que nous sommes fatigués du paternalisme, nous sommes fatigués de la France, nous sommes fatigués de vous. Et c'est le même gouvernement qui est allé donc prendre un élément, un instrument.
La CENI.
Non. Ah bon, la CENI, écoutez, quand on prend la CENI, on sait. Et c'est eux qui sont donc là. Ok, la CENI, sous le gouvernement, qui donc a demandé donc à un élément, à un instrument donc du paternalisme, de venir certifier leur fichier électoral. Vous voyez que
à l'insu même de
plusieurs. Maintenant, je reviens sur le thème suffisamment bon. Soit on peut pas travailler sur des choses où on nous donne l'idée d'à peu près. C'est-à-dire que suffisamment bon, ça veut dire que bon, on peut y aller, bon, c'est possible, bon, d'une manière plus ou moins correcte, on peut faire avec. Vous voyez, donc on peut pas travailler dans une république où on fait un peu de la paix. Suffisamment bon, c'est soit c'est bon ou soit ce n'est pas. Bon, suffisamment là, je crois que si on dit suffisamment, ça veut dire bon, en moyenne c'est bon. Bon, on peut aller avec, ça peut passer. Vous voyez, donc c'est cela. Donc à un moment donné, il faudrait que quand on vous donne, donc on confie, donc une institution, il faut travailler à ce que vous puissiez donc relever. Donc,
mais je rappelle que depuis hier, il y a ce communiqué de la CENI, que j'en doutais un peu parce qu'il y a tellement de fake news. Mais ce matin, j'ai écouté sur Radio Le Maine.
TVT aussi a passé.
Ah, ok, le communiqué intégral que la CENI a sorti sur le fichier électoral avec des données. Justement. Maintenant, on attend que la CENI continue dans ce sens en communiquant le chronographe de ses activités jusqu'aux élections régionales et législatives. Ah bah c'est ça, quoi.
Oui, effectivement, c'est ça qui a manqué, la communication. Parce que juste après les inscriptions sur la liste électorale, les gens se sont demandé qu'est-ce qui ne va pas à la CENI, est-ce que les élections vont encore avoir lieu. Et jusqu'à ce qu'on arrive à novembre, on nous fait savoir qu'il y a un fichier qui est inclusif. Et parce que l'OIF a édité, bien sûr, le Togo est membre de l'OIF, mais est-ce que après le dédoublonnage des listes électorales par la CENI, la CENI voulait faire comprendre.
Non, Abbas, je pense qu'il faut prendre acte. La CENI dit qu'elle a fait un travail préliminaire que l'OIF est venu affiner. C'est sur la base
de certifié.
Ils ont sorti leur communiqué hier.
Oui, donc on prend acte de ça, parce que comme l'OIF a parlé,
oui.
a certifié même.
Maintenant, nous avons un fichier suffisamment fiable. Qu'en est-il de la suite des événements?
C'est ça qu'on attend de ça qu'on attend de la CENI, qu'elle nous, désormais, parce que l'ensemble des partis politiques qui sont là réclament le chronogramme des élections. Aujourd'hui que le fichier est là, et la CENI a fait un communiqué pour publier, j'espère que c'est dans la continuité, après la publication de ce communiqué, on situera les gens, les uns les autres, sur le prochain chronogramme. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc, on attend que la CENI ne reste pas les bras croisés cette fois-ci. Tout est déjà fait. Qu'on nous dise. Voilà,
la suite des événements.
Ouais, la suite des événements.
Mais il y a également un élément important. Je crois que c'est mai que nous avons eu le recensement, non? En mai?
Non, entre avril et juin.
Entre avril et juin. Oh, oui. Donc, si on estime que déjà en 2024, on ira aux élections, il y a déjà.
Ce qui avait dit,
oui,
c'est que les élections régionales et législatives devraient avoir lieu en 2023.
Mais techniquement, quand on nous voit, on sait que techniquement, maintenant, ce n'est plus possible. Encore que l'Assemblée finit le 31 décembre, hein, leur mandat fini. Et que même la CENI aussi, son mandat est fini depuis, hein, depuis avril 22. Vous voyez, donc la CENI aussi assume l'intérim. Maintenant, si on estime que c'est en 2024 qu'on ira aux élections, il y a beaucoup de Togolais qui ont déjà 18 ans et qui doivent voter. Voyez-vous, déjà, les Togolais qui ont 6 mois et tout ça, là, déjà en janvier, il y a beaucoup qui ont 18 ans. Donc, ils ont le droit de voter. Maintenant, on va faire quoi? On va encore faire un autre recensement pour eux. Ou on arrête le fichier et que ceux qui auront 18 ans en 2024, eux, ne compteront plus.
Le fichier est déjà arrêté.
Vous voyez?
Le fichier électoral est dynamique dans tous les pays.
Normalement.
Fichier, je crois que le fichier qu'il y a fait auditer, c'est pour l'année 2023. Là où Sylvestre a raison, si on déborde en 2024, deux jeunes Togolais auront atteint 18 ans.
Et donc,
on en aura deux en 2024.
La CENI même a fini.
Ok, on verra.
On verra parce que
okay, la CENI. Mettons, on aura un autre recensement. On va attendre donc le
WIA certifié. Il y a un couple qui sait très bien dans la bonne gouvernance démocratique, c'est que autant les citoyens ont le droit de s'informer, de demander des comptes, autant les gouvernants ont le devoir de rendre compte. Comme ça, nous sommes au même niveau d'information et la République peut aller de l'avant. Je crois que c'est ce qu'une instance vient de faire à propos du port sec d'Aditikopé. Port sec d'Aditikopé qui a été érigé pour décongestionner le port autonome de Lomé. Entre-temps, les activités étaient au ralenti et aujourd'hui, plutôt la manchette, en se basant sur une correspondance prise par le gouvernement, par le ministère de, je crois, l'économie
maritime.
Oui, donc qui informe que la reprise des activités au port sec d'Aditikopé sera effective le 15 décembre prochain.
Oui, c'est vrai que les activités ont été lancées en 2021, et donc ça continuait jusqu'en avril 2022, mais il y a eu quelques soucis puisque il y a quelques compagnies qui hésitaient encore à permettre à ce que le transfert des conteneurs sur ce port sec là se fasse et tout ça, ce qui a véritablement pesé sur le cours normal donc des activités au niveau donc du port sec d'Aditikopé. Donc maintenant, les divergences, selon nos informations, le ministre a quand même pu aplanir les divergences. Et donc, le 15 décembre prochain, et ce sera donc la reprise des transferts de conteneurs. Vous savez que sur ce port-là, qui dessert souvent les pays de l'Interlande et tout, le Burkina, le Niger et tout, et puis ça permet également de congestionner donc le port maritime, donc le port de Lomé, le port de Lomé. Donc, le ministre l'a annoncé que maintenant c'est le 15 décembre prochain. Et puis, dans la correspondance que nous avons pu lire, il disait que ça peut même avoir, ça peut prendre effet bien avant même
le 15 décembre.
Bien avant le 15 décembre. Donc, on espère pour que cela puisse.
Merci. Donc, il s'agit d'une correspondance signée du ministre Edem Kokou Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, en date du 14 novembre 2023, qu'il a adressé à la présidente de l'association professionnelle des compagnies de navigation et de consignation de navires du Togo, Navi Togo.
Voilà.
Donc le ministre demandait à Navi Togo de prendre toutes les dispositions à cet effet, à savoir le paramétrage informatique, l'avis à la clientèle, l'information au siège. Et dans cette même correspondance, le ministre Tengue rassurait tous les acteurs que l'administration publique, à savoir le port, l'Office togolais des recettes, l'unité mixte de contrôle des conteneurs, Ségus, que l'administration publique prendra également de son côté toutes les mesures pour rendre possible les transferts au plus tard le 29 novembre prochain.
Le 29 novembre, voilà.
Cela s'appelle quand même réactivité. Avant de reprendre une activité suspendue, il faut informer
les
parties prenantes. Voilà. Alors, je reviens à toi, Bachisaka, avec Mania Libéré, qui revient sur le 20 novembre, la journée de l'enfance ou bien de l'enfant. Nous l'avions évoqué au Club de la Presse lundi, mais ton journal y revient.
Oui, nous sommes revenus parce qu'on a trouvé que c'était important. La vie des enfants aujourd'hui dans les rues est un véritable problème.
Les enfants en situation de rue.
Situation en rue de rue. Un véritable casse-tête juridique. Un casse-tête chinois parce que ce sont des enfants.
Casse-tête togolais. C'est un problème togolais.
Voilà. Ce sont des enfants qui sont délaissés par leurs parents parfois. Ce sont des enfants certains qui cherchent aussi à s'auto-autonomiser. C'est-à-dire que moi, je vais quitter mes parents. Certains par méchanceté, ils quittent leurs parents par méchanceté, et d'autres quittent pour dire que je suis là, je peux aussi aller s'occuper de moi-même. Et parfois, ce sont ces enfants-là qui deviennent des délinquants parce qu'ils vont fréquenter des bandes, des bandits et autres là, et pour eux, c'est devenu, ils sont déjà autonomes. Donc, et nous avons rappelé les actions que le gouvernement togolais avait prises en ce sens, puisqu'il y a la ministre Anakoma qui a présenté
l'action sociale
qui a présenté certaines actions pour au moins maintenir au plan juridique, au plan institutionnel et au plan pragmatique, formation, tout ça. Là, nous avons évoqué ça dans le journal pour dire que aujourd'hui, les enfants doivent être là, encadrés, pour qu'ils ne soient pas tous jetés dans la rue. Les parents doivent aussi être responsables par rapport à ces enfants. Parce que quand vous mettez au monde un enfant, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est vous qui l'avez amené. Il faut pouvoir l'encadrer. Le faire de telle sorte qu'il puisse réussir dans la vie. Parce qu'il y a quelque part, on dit, il faudrait qu'on prenne soin de nos enfants. Demain, c'est eux qui prendront soin de nous-mêmes. Donc, si on les lâche, il y a certains qui s'enfuient, qui sortent de la maison parce que les parents sont méchants. Il y a certains qui vont délaisser leurs enfants quelque part. Eux, ils deviennent des délinquants mineurs. Heureusement que maintenant, là, on a changé le nom de brigade pour mineurs pour le transformer en centre d'insertion.
Mais le problème reste le même.
Ça reste le même. Donc, il faudrait que on prenne conscience de ce que nous faisons.
Merci. Les enfants des foyers séparés,
pour ne pas
dire divorcés. Les enfants vivant avec dans des foyers monoparentaux, où toute la famille se réduit au père, où toute la famille se réduit à la mère. Alors, où est le père pour la mère seule? Où est la mère pour le papa seul? Et puis également, c'est un peu la mode. On fait des enfants n'étant pas mariés. L'homme est à Détikopé, la femme est à Kanikopé, puis il faut un enfant. Alors cet enfant, il est de quel foyer? Il reste avec qui?
L'enfant reste à Détikopé.
La responsabilité même des parents vis-à-vis des enfants. Les enfants orphelins. Quand le papa meurt dans nos sociétés, nous savons tous ce que cela occasionne. Quand la maman meurt, et surtout qu'entre temps, le papa se met en ménage avec une autre femme.
C'est tout des problèmes.
Le problème également, c'est la pauvreté, le chômage, les parents qui voudraient bien, mais qui n'ont pas les moyens de prendre soin des enfants. Si nous voulons une société vraiment inclusive, égalitaire, il y a un travail, un effort que nous devons faire, aussi bien l'État que les parents de notre société dans son ensemble. Sylvestre Béni?
Oui, moi je vais me fonder en fait sur l'article donc du Mania Libéré pour soulever un élément important. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes menacés au nord du pays par le phénomène donc du terrorisme. Et donc ces jeunes-là, c'est un terreau fertile pour ces messieurs-là. Sortez un peu la nuit, regardez juste au niveau donc du Grand Boulevard. Autour donc de 20h, 21h ou 22h, vous verrez ces jeunes-là par dizaines, hein, dormi peut-être à la belle étoile ou au niveau des terres pleines et tout, parce qu'ils n'ont presque personne pour s'occuper d'eux. Je crois qu'il y a ces enfants-là, si on leur fait miroiter certaines choses, venez avec vous, vous voyez vos situations, c'est parce que c'est l'État qui vous a mis dans ces conditions, on endoctrine ces jeunes-là, ils peuvent être facilement des proies à ces personnes-là. Donc, au gouvernement de mieux, hein, regarder surtout ce problème, parce que j'ai suivi l'élément sur une chaîne internationale où on parle du Togo avec ces jeunes-là, notamment, je crois que c'est sur France 24, oui, où on a montré ces jeunes-là et qui deviennent légion, pullulent maintenant à Lomé et tout. Il faudrait que l'État soit regardant pour trouver un programme pour caser ces jeunes-là, hein, surtout pour leur réinsertion, parce que c'est important qu'ils ne deviennent pas plutôt des dangers pour la République.
Merci. Il est 12h passé de 1 minute. Nous suspendons nos échanges. Je rappelle juste que nous avons rappelé qu'il y a 60 ans, le président John Fitzgerald Kennedy était assassiné. Le mystère demeure encore sur les circonstances de cette mort. Sylvestre Béni a rappelé également le cas du président du Togo, Sylvanus Olympio. On a continué avec les articles de santé éducation, notamment ce que vous avez écouté. Docteur Bigma Malana qui nous a parlé de ce projet portant cartographie des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Puis nous allons continuer avec quelques titres de l'actualité sociopolitique. À présent, nous allons souffler un peu pendant que Michel va adresser le clin d'œil de la station aux auditeurs. Vous préparez à composer le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Et là, vous co-animez avec nous par vos questions ou vos commentaires. 93.5. Eh bien, c'est parti. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Nous réceptionnons vos questions, vos commentaires. Oui, bonjour l'ami.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gado.
Monsieur Gado.
Oui.
Nous écoutons.
Oui, je voudrais parler de la CENI.
De.
Vous savez, si c'est que la CIDAO est garçon, on peut immédiatement nommer Georges Louéa coach de CENI. On n'aura plus jamais de problème. Et je demande au Togo de nommer Georges Louéa coach de CENI et tu iras bien. Merci.
Merci, monsieur Gado. Alors, il a parlé de la CENI ou bien des éperviers?
Non, de la CENI.
De la CENI. George Weah comme expert conseiller
de la CDAO. Oui. Merci. Donc, il n'y aura plus de problème.
Merci. C'est vrai que, tout en ayant perdu son élection, George Weah est devenu une certaine vedette, comme il était sur la pelouse il y a quelques années. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour, mon commandant.
Oui, Patrick.
Ah, comment ça va ce matin?
Ah, Dieu nous a prêté encore cette vie. Cette journée.
C'est ça même l'essentiel.
Mm-hmm.
Bon, M. Sage, je vous apporte une information concernant ce que vous venez de dire concernant les enfants de rue là.
Oui.
Ce matin, au niveau de la culture de la gendarmerie, on était de passage et on a constaté qu'il y avait les policiers qui les renvoient là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est un travail qui a été, c'est-à-dire qui commence pour que ces enfants puissent être dégagés, ou bien seulement, comme c'est la clôture de la gendarmerie, c'est ça l'interrogatoire. Mais l'essentiel que j'ai vu, qu'il y a quand même un policier ou des policiers qui chassaient ceux qui restaient derrière la gendarmerie là-bas. Okay.
C'est ce que vous avez vu et constaté, mais vous n'êtes pas allé pour en savoir davantage.
Non, je ne suis pas allé, ça, je ne veux pas vous mentir.
Merci beaucoup.
Seulement.
C'est bien de dire la vérité.
D'accord. Secondo,
oui.
Je pense que le président Kennedy est le meilleur et demeure le meilleur président des États-Unis jusqu'à l'heure actuelle. Pourquoi je dis ça? Quand vous suivez la biographie de ce monsieur, sa gouvernance, d'abord quand il était militaire, tout ce qu'il a vécu au cours de la guerre avant de venir à la présidence, et le grand succès, c'est qu'il a su éviter la guerre mondiale. Ce n'est pas ce que nous voyons maintenant. Il a su éviter beaucoup de guerres même entre la Russie et
Vous parlez de Kennedy.
De Kennedy, bien sûr.
Bon, j'avoue que je n'étais pas né à cette époque, mais ce que j'ai lu, je ne sais pas si Kennedy avait fait l'armée avant de se faire élire président de son pays.
C'est pourquoi je dis, allez voir ça. Il a fait l'armée. Il a sauvé même ses compatriotes.
Ok. En tout cas, nous ne jugeons pas ses résultats, mais ce que nous rappelons, c'est les circonstances de sa mort. Ça fait 60 ans, il y a quand même un mystère qui demeure. C'est ce que nous avons tenu à rappeler.
Exactement. Donc, c'est un apport que j'ai voulu
Merci apporter. Beaucoup, Patrick. Le troisième auditeur, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est M. Assiongbon.
M. Assiongbon.
Oui.
Vous nous appelez de...
Ma question à monsieur le docteur.
Oui, docteur Bigma.
Pardon?
Oui, docteur Bigma.
Docteur. Ma question à monsieur le docteur.
Ouais, ok, il vous écoute.
Ok. Il vient de dire maintenant que le diabète ne se guérit pas. Que vous parlez de la guérison du diabète, c'est très compliqué. Je voudrais l'informer que le diabète se guérit dans la médecine moderne. Donc, oui, d'abord, ses camarades le font. Il n'a qu'à aller.
Le docteur va vous répondre, mais le communiqué que le ministre Mijiawa a sorti hier, c'est justement relativement au supposé médicament découvert par Togwe Dagban. Mais je vais passer la parole au docteur lui-même.
Ma question, monsieur le docteur aussi.
Ok.
Bon, en Occident, lorsqu'on parle que quelqu'un est docteur en pharmacie, il fabrique les médicaments. Chez nous, au Togo aussi, je n'en connais pas. Si monsieur le docteur, il connaît quelqu'un qui est un docteur en pharmacie, il fabrique les médicaments, il n'a pas fait savoir.
Ok, un docteur en pharmacie qui fabrique des médicaments ici au Togo. Ok, le docteur a noté, il va vous répondre dans un moment. L'auditeur suivant, bonjour.
Salam alaikum, monsieur Sass.
Monsieur Waris.
Je salue le plateau.
Nous vous saluons en retour.
Vous savez bien pourquoi je suis rentré en ligne. C'est pour dire bravo aux étudiants. Félicitations à eux. J'étais au terrain hier. Et ce que nous avons vu hier, si ça pouvait commencer et continuer comme ça, je pense qu'on peut aller très loin.
Mm-hmm.
Et nous saluons le public aussi qui a fait
le déplacement hier.
Hier, massivement. Les gens qui étaient même gagnés à Tebou.
Vous-même, vous étiez au terrain hier?
Hier, j'y étais.
Ok. Merci.
Donc, bravo aux côtes. Cela montre aujourd'hui que nous n'avons pas pour le moment le problème de côtes. Et bravo à toute l'équipe nationale et surtout le numéro 17, là, il a donné hier tout ce qu'il pouvait donner.
Okay.
On pouvait même gagner le Sénégal même à plus de 5 buts à 0. Oui. Donc, okay.
Ça viendra.
Merci pour ce duel. Les États-Unis ont montré face au tenant du titre champion.
Merci beaucoup. Merci, monsieur Waris, pour ce témoignage. Ces félicitations aux éperviers, au public aussi. Le suivant, bonjour. Allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Nous vous écoutons.
Je veux d'abord aborder le sujet de la CENI.
Pardon?
Le sujet de la CENI d'abord.
Mm-hmm.
Je suppose que nous voulons faire un repas. Et nous avons concerné les produits. Il y a les œufs, les oignons et autres. Et parmi les œufs, il y a des œufs pourris. Il y a encore les piments pourris, des éléments qui ne cadrent pas. Et nous avons tout mélangé pour faire le repas. Et nous avons dit à la fin que le repas est suffisamment bon. On se trouve ça normal. La CENI a manqué à son devoir. L'État lui a confié un travail. On lui a donné les moyens. Elle n'a pas utilisé tous les moyens pour satisfaire les citoyens. Nous nous plaignons et c'est l'UIF qu'on appelle en catimini pour nous dire que c'est suffisamment bon. Mais nous, on ne peut pas avaler ça. Ce n'est pas du tout logique. Qu'elle revoie son travail. C'est ce que moi je demande à la CENI.
Merci.
Par rapport aux épaisiers, je vais la féliciter. J'ai souhaité hier qu'il gagne par 2-0, mais ça n'a pas pu être concrétisé. Mais ce n'est qu'une partie remise.
Merci beaucoup, Harry. L'ami Kofi.
Allô?
L'ami Kofi qui passe le témoin au suivant, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô, l'ami en ligne.
Allô, monsieur Saf.
Oui, je vous écoute.
Ah, c'est Patrick qui revient.
Ok.
J'avais oublié là, monsieur Saf. Bon, je veux parler concernant la série là.
Oui.
C'est bien. Le IEF est venu. Mais il ne serait pas aussi bon qu'on invite aussi le Commonwealth pour venir aussi inspecter, pour certifier comme OIF l'affaire, parce qu'actuellement nous sommes dans la Commonwealth. Et ils prônent aussi, dans leur clause, ils prônent aussi la bonne gouvernance et des élections libres, équitables et transparentes.
Mm-hmm.
Commonwealth aussi peut venir attester, voici ce que l'OIF fait, ou bien faire son expertise aussi pour nous confirmer que voilà, le fichier électoral est propre, que tout peut se dérouler dans les normes.
Mm-hmm.
Voilà.
Merci. Alors, l'ami Patrick,
oui.
Si le Commonwealth arrivait ici et faisait son rapport en anglais, est-ce que vous allez comprendre?
Pourquoi pas?
Ok.
Si c'est au moins les anglophones.
Ok. Non, c'était juste pour vous taquiner un peu. Merci. Après, le Patrick de l'auditeur suivant, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Oui, allô?
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, un auditeur qui ne connaît pas. Qui connaît seulement des pharmacies ne fabriquent pas. Mais en tant que référé au docteur Dalmeda, pharmacie pour tous.
Uh-huh. Docteur Dalmeda de pharmacie pour tous.
Oui, il est fabricant.
Il a découvert quel produit, quel médicament hein? Allô?
C'est bon.
Oui, docteur Dalmeda de pharmacie pour tous, il a découvert quel médicament sur le marché?
Pharmacie pour tous, oui, oui. Il a inventé beaucoup de produits.
Ok, n'arrivons pas à écouter distinctement l'auditeur, hein, parce que la qualité est défectueuse de la communication à ce niveau-là.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Serge.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Serge depuis Adakpame.
Serge depuis
Adakpame.
Adakpame.
Oui.
Ok.
J'aimerais intervenir au niveau de la délinquance juvénile.
Oui.
Bon, j'aimerais exhorter l'État à veiller sur nos jeunes qui ont les bras valides, qui peuvent travailler pour notre pays.
Mm-hmm.
J'aimerais donner l'exemple d'Adakpame au niveau de Davido.
Oui.
Les soirées, j'exhorte les forces de sécurité d'intervenir là-bas en voyant les jeunes qui fument devant les grands frères. La drogue que avant nos grands frères se cachaient avant de fumer, aujourd'hui les jeunes, les petits même, c'est pas les jeunes, les petits qui fument la drogue en te dépassant même, bon, gaillardement. Donc j'aimerais interpeller l'État, intervenir dans ce cas,
oui,
pour pouvoir faire quelque chose pour nous.
Merci. Jeunes. C'est vrai que la drogue envahit hein, le pays, la ville de Lomé chaque jour un peu plus. Dans tous les quartiers, c'est des ghettos. Avant, les gens se cachaient dans des ghettos. Maintenant, c'est à ciel ouvert. Et au vu aussi de tout le monde, les jeunes se rassemblent, ils fument, et puis nous détournons le regard. Comme pour paraphraser Jacques Chirac, notre ville est en train de se droguer et nous détournons les regards.
Allô.
L'auditeur suivant, bonjour. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Yao.
Monsieur
Yao.
Monsieur Yao.
Oui.
Ok, nous écoutons.
Je voudrais parler de la CENI et puis des
vous parlez de
la CENI et puis des éperviers.
La CENI et les éperviers, ok.
Il y a un proverbe qui dit ce que l'on conçoit bien, c'est notre le mot plaisir arrive aisément. Si la CENI savait qu'il travaille pour le pays, il va savoir ce qu'il fait aussi. C'est que la CENI ne connaît pas ce qu'il fait. S'il connaissait ce qu'il faisait, il allait à ce que voilà, voilà.
Je m'excuse auprès des auditeurs. La communication n'est pas très, 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 très bonne. Hein, nous nous en excusons. L'ami est toujours là. L'ami Yahweh est toujours là.
Non, il paraît qu'il est parti.
Ah, il paraît. Mais vous savez qu'il est parti. Et vous, c'est qui?
Ah, mais oui.
Pardon?
C'est qu'il est parti.
C'est monsieur?
C'est Sylvain.
Vraiment, j'ai du mal à écouter distinctement.
Allô? Allô?
Oui, allez-y.
C'est Sylvain. Allô?
Oui, oui.
C'est Sylvain.
Sylvain.
Oui.
Sylvain Agbayi.
Oui, l'autre ami est parti.
Ok, et vous avez pris sa place?
Oui, j'ai pris sa place.
Ok.
Quelqu'un laisse, quelqu'un prend.
Ok, allez-y, Sylvain.
Oui, je voudrais parler aux éperviers. Ils ont fait un bon match hier. Mais il faut qu'ils mettent le ballon dans la cage. Mais oui, couler un mot pour déchirer. Et puis nous sommes maintenant troisième après le Sénégal et la RDC. On va faire des sorties.
Non, nous sommes quatrième. Il y a le Sénégal, le Soudan et la RD Congo qui sont devant nous.
Voilà. Il faut qu'ils mettent le ballon dans le but de Mané.
Mm-hmm.
Comme ça, ce matin, je vais m'asseoir dans un bar après bien classé.
Ah bon?
Oui, ça nous ferait plaisir si c'est qu'ils ont marqué.
Ça veut dire que depuis hier, vous n'avez pas pris votre billet?
Non.
Vous êtes sûr?
J'ai pas pris ça.
Ok, je vais demander. On va vous faire alcotest depuis hier, là.
Non, c'est automatique, j'ai pas pris.
Ok.
Bon, pour le docteur, pourquoi ne pas accompagner Dogby Dagba pour tester ce produit qui pourrait guérir
le diabète?
Au Ghana, ça se fait.
Okay.
Les produits traditionnels se vendent dans les pharmacies.
Okay.
Il faut accompagner le monsieur pour voir ce qu'il a fait, ce qu'il a fabriqué, ce qu'il a fait sortir, est mauvais ou bon.
Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, docteur Bigman, vous allez devoir porter les habits de Mijiawa. Hein, même si c'est pas pour ça que vous êtes venu. Le dernier auditeur, est-ce que le Togo ne devrait pas accompagner des tradis thérapeutes comme Dr Dagban, comme Togui Dagban, pour nous situer sur leurs remèdes ou leurs médicaments?
Ok, merci beaucoup, merci aux auditeurs pour l'intérêt sur le sujet. Et je vais dire que de plus en plus, nous les praticiens de la médecine moderne, on essaye de se rapprocher de plus en plus vers les tradis thérapeutes, parce que on a mené quelques études et on s'est rendu compte que environ 80% de la population, lorsque les gens sont malades, en premier ils vont consulter un tradis thérapeute.
Mm-hmm.
Donc au sein même de l'Ordre national des médecins du Togo, il y a des projets qu'on est en train de mettre en place pour aller vers ces tradis thérapeutes,
mm-hmm,
et voir qu'est-ce qu'ils font réellement et comment les accompagner à mettre en place un système plus efficace pour aider notre population. Donc c'est pour dire que on n'est pas contre ce que les gens font, mais nous essayons donc de voir comment faire pour qu'ils entrent dans une démarche raisonnable, pour qu'on soit sûr que ce qu'ils font ne nuit pas à la population. Donc c'est pour donc dire que si quelqu'un pense qu'il a une bonne idée ou bien que la personne a fait une découverte qui peut aider la population, nous l'invitons humblement, nous on est assez ouvert, donc à venir vers l'Ordre national des médecins du Togo, soit des pharmaciens du Togo, c'est la même procédure.
Alors pour le cas spécifique de Togui Dagban, est-ce que soit sur sa démarche ou bien sur la vôtre propre, est-ce que vous connaissez un peu son remède et si vous y travaillez?
Personnellement, je n'ai aucune idée de quoi il s'agit et de comment ça marche. Pour mettre en place ou bien sur le marché un produit, en fait, il y a une procédure. Donc, pour obtenir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur marché. Donc, c'est un ensemble et ça fait plusieurs étapes. On va faire des expériences, des tests. Après, on prend des volontaires qui vont tester le produit pour s'assurer que voilà, c'est pas nuisible avant de mettre ça sur le marché.
Merci. Mais le diabète, il est toujours dans la cité. Alors, il y a une auditeur qui a réagi sur vos propos.
Oui.
Est-ce que le diabète se guérit, oui ou non?
De façon physiopathologique, jusqu'à ce que j'ai appris en médecine à l'école de médecine, c'est non.
Pour le moment?
Pour le moment, okay. Voilà. Il faut le contrôler.
Sur un plan plus général, est-ce qu'il y a des pharmaciens, des docteurs en pharmacie qui fabriquent des médicaments made in Togo?
Je vais dire même qu'on fait plus que ça, parce que récemment, on est en train de conduire, je vais dire on est en train, parce que je fais partie du corps médical avec le professeur Ado Tevi qui est en train de mettre en place un vaccin contre le cancer. C'est une révolution qui va au-delà. Donc
projet de vaccin?
Oui.
Okay.
De vaccin contre les cancers qui en fait au sein de l'organisme va booster les cellules et donc empêcher l'évolution du cancer chez une personne. Donc quand on parle de ça, c'est une révolution dans le monde et c'est pas que au Togo. Donc on en fabrique des médicaments de base.
Donc, des chercheurs qui trouvent, on commence à en trouver au Togo.
Voilà, il y en a.
Eh bien, vivement que cela se sache davantage.
Merci beaucoup.
Tout de table, Sylvestre Béni, Abel Ozi, vous avez écouté les auditeurs. Une minute pour réagir sur l'un ou l'autre ou bien pour tenir votre conclusion de l'émission.
Non, écoutez, nous avons suivi les auditeurs. Il y a certains qui ont évoqué donc la CENI et les éperviers. Donc chacun y allait donc de son commentaire. Il ne nous revient pas donc de commenter le commentaire de quelqu'un. Mm-hmm. Donc voilà.
C'est maintenant, la liberté d'opinion
c'est
de chacun.
C'est la liberté d'opinion. Donc voilà. Conclusion, c'est
oui,
ça?
Un point qui te tient à cœur à toi-même.
Non, écoutez, moi je voulais en fait revenir sur juste un sujet qui véritablement aussi va faire rire parce que et la dernière fois le chef de l'État était donc en Allemagne et il a été accueilli donc en grande pompe par la diaspora togolaise, celle qui est en Allemagne. Mais au temps chaud donc de nos mouvements, c'est la même diaspora qui disait que il faut marcher sur la présidence. Maintenant, celui qui a la présidence sur lequel il faut marcher est venu donc chez vous. Vous l'avez applaudi. C'est juste pour dire que c'est celui qui est donc à côté du WC qui sent l'odeur.
Tu connais l'auteur original de cette phrase-là?
C'est Yadema.
Ok. Et puis ce que tu évoquais, ça date de quelques années, de quelques temps. Aujourd'hui, le même Fornia Singbe qui était menacé d'être lynché en Allemagne, c'est lui à qui la diaspora offre un bain de foule pour dire que les choses évoluent au jour le jour. Abel aussi?
Bon. Pas grand chose, mais bon, on va encore citer nos éperviers pour leur prestation hier. On croit en eux, on croit qu'avec cette belle prestation, cette belle lancée.
Non, pas encore belle, hein.
Oui, bon, selon moi, c'est.
Ok, selon toi,
c'est son commentaire.
Liberté d'opinion.
Donc, on va les encourager, les soutenir pour que la qualification soit la nôtre, en fait.
En 2026.
2026.
Dieu t'écoute. Okay. Abassi Saka,
ouais, je pense que par rapport aux éperviers, je crois qu'il faut appeler à la patience aussi du public sportif qui a commencé maintenant par avoir confiance aux éperviers. Parce que dès que vous suivez, surtout aux sorties du match Togo-Soudan, Soudan-Togo, si vous suivez leurs commentaires, parce que les buts que les Togolais ont vendangés, on insultait même les joueurs, on s'attaquait même au coach, juste après le match, quoi. Et nous sommes dit, non, c'est pas normal, parce que ce qui s'est passé en 2006, on a pu se qualifier, c'est parce que on a demandé aux gens, au public sportif, d'être patient et de soutenir les joueurs, quelles que soient les erreurs qu'ils commettent, de les applaudir. Et c'est ce qui se faisait en 2004-2005. Et aujourd'hui, on a un nouvel entraîneur après que l'équipe soit décimée pendant 5 ans, qu'on est en train de reconstruire. Aujourd'hui, on va parler de reconstruction qui est en train d'être réaffirmée. Donc, il faudrait qu'on soit dans
donc,
cette logique.
Exhorte le public à une certaine patience.
Certaine patience.
Le temps que ce que nous commençons à se mettre en forme, se consolider.
Se consolider. Et ça, c'est en train de se faire.
Merci. Docteur Bigma, votre conclusion, c'est sur le projet cartographie des personnes atteintes d'albinisme au Togo.
Merci beaucoup, Sass. En guise de conclusion, j'ai peut-être deux choses. La première chose, c'est à l'endroit de la population. Et quand je parle de la population, c'est la population de façon générale et les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes. Donc, c'est d'abord de les rassurer que le projet a de bonnes intentions. Donc, il n'y a rien de mystique, de discrimination derrière. Donc, plutôt les inviter donc, à collaborer et à sortir au moment venu pour qu'on fasse le recensement et mieux orienter donc, les actions de promotion en leur faveur. Donc, la deuxième chose, c'est de remercier tous les partenaires autour de ce projet. Donc, j'entends par là le ministère de la Santé à travers donc, la division de la Santé communautaire, le ministère de l'Action sociale pour donc, le soutien en faveur des populations vulnérables. Et puis, la SOTODERM, la Société togolaise de dermatologie, le laboratoire peau et environnement de l'Université de Lomé, la NAT elle-même, donc l'Association nationale donc, des albinos du Togo, et puis le plus grand partenaire pour nous, donc la Fondation Pierre Fabre, donc pour son soutien dans la réalisation de ce projet.
Mais il y a un partenaire plus grand que tout cela. Vous le connaissez?
Oui.
C'est nous, les médias.
Justement.
Ok.
Merci à vous. Merci, ça. Nous serons toujours avec vous. J'espère que vous nous recevrez quand on aura besoin de vous, donc, pour passer les informations par rapport à ce projet.
C'est par devoir.
Merci beaucoup.
C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain jeudi à 11h, si Dieu le veut. Et prions que Dieu le veuille.